I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Quand il entre dans une pièce, vous êtes transporté par les embruns du Finistère. C'est la houle Malouine qui vous emporte de Brest à Lorient, de Cancale à Carnac. Il est le menhir d'Eurosport, le dolmen du journalisme sportif. Il est à notre rédaction ce que la saucisse est à la galette, l'élément incontournable, le socle de notre équipe. Quelque part entre Romain Danzé et Chaban Inonda, il est notre Eduardo Camavinga du débat, notre Fabien Lemoine de l'analyse. Un vieux proverbe breton nous dit « mieux vaut se réveiller avec une gueule de bois qu'avec une tête de con ». Cette stream team en sa compagnie va vous rendre ivre de lui et vous en sortirez sans doute un peu moins bête. Comment ça va, cher Glenn Cellier?
Ça va très bien, Martin. Merci beaucoup pour cet éloge, j'allais dire.
C'est un hommage. Il est magnifique.
Tu as tout résumé en plus.
Un hommage qui sent le chouchen, mais un hommage quand même.
Qui sent le chouchen, tout à fait. Ouais. T'es un vrai poète.
Les gens ont le droit de savoir. Les gens ont le droit de savoir quand même, Glenn.
Exactement. Et puis, tu as parlé de tous les gens que j'adore. Évidemment, de la galette saucisse.
Chaban Inonda.
Chaban
Inonda. Avec Glenn, alors je vous dis, à 13 ans, avec ses boutons percés sur le nez, il était là avec son écharpe rouge et noir. Chaban
Inonda. C'est une très belle époque de ma vie, j'avoue. Et évidemment, je mangeais beaucoup de galettes saucisses que je t'ai fait apprécier, Martin. Parce qu'il faut
mais
parler,
la légende dit que tu en manges toujours.
Exactement, à chaque fois que je peux, je n'en manque jamais.
Bienvenue dans le FC Stream Team. En tout cas, on va peut-être démarrer, Glenn. Sauf si on veut
faire
une demi-heure sur ta jeunesse.
Pendant des heures et des heures, mais je ne sais pas si ça passionne les fous.
On ne parlera pas de Bretagne aujourd'hui. On va parler du Paris Saint-Germain qui tire la langue. On l'a vu lors de la seconde période face à Manchester City. C'était mercredi en Ligue des Champions. Paris qui s'est un peu écroulé physiquement. Il y a un titre à aller chercher. Il y a une finale à aller chercher aussi en Ligue des Champions. Il y a deux matchs très importants, Lens et Manchester City, qui arrivent. Lens, il n'y aura pas déjà Kylian Mbappé, victime d'une contracture au mollet. On va se poser la question avec Glenn. Et on a posé aussi la question à Mauricio Pochettino il y a quelques instants en conférence de presse. Est-ce que le problème, il n'est pas physique? Est-ce qu'aussi le fait que cet effectif soit beaucoup soumis au Covid, l'effectif a été très touché par le Covid, est-ce que tout ça, ça n'explique pas les problèmes du Paris Saint-Germain? Parce que derrière, il y a le spectre de la saison blanche, n'oublions pas. Ce sera la première partie très dense de cette émission. Ensuite, Glenn, on parlera de Cristiano Ronaldo.
Exactement, on va se poser la question de son avenir, parce qu'on le sait, il est dans une mauvaise passe en ce moment à la Juventus. Et forcément, ça interroge. Et pour nous guider, pour nous éclairer sur le sujet, on a un excellent invité, un expert évidemment, Guillaume Maier-Pacini.
Le meilleur d'entre nous, le Alain Juppé d'Eurosport, le meilleur d'entre nous. Et on terminera cette émission avec British Telecom qui se désengage, qui veut arrêter son portefeuille sportif, qui veut revendre tout ça. Et on se posera la question, quelles conséquences ça peut avoir sur le marché des droits sportifs en Grande-Bretagne, en France? Est-ce qu'on va vers un éclatement total de la bulle? On aura un spécialiste pour parler de ça avec nous. Mais attendez la fin de l'émission, ce sera assez instructif. Glenn, on va démarrer avec le Paris Saint-Germain. Juste le temps de rappeler qu'évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de podcast. Mettez-nous des cœurs, mettez-nous des likes sur Apple Podcast notamment. Si vous voulez voir nos bobines, c'est sur Facebook, vous le savez. Chaque vendredi aux alentours de quelle heure, Adrien? 18-19 heures par là. On est sur Facebook et il y a évidemment les meilleurs moments de l'émission. Alors, vous gagnez en bogositude en plus cette semaine parce que vous passez de Maxime Dupuy à Glenn Cellier. Donc là, on gagne en bogositude. On gagne en densité capillaire.
Si on gagne en expertise.
On gagne.
Oui, c'est vrai.
Alors par contre, niveau expertise, là, bon,
ouais, Glenn, là, on pas...
Glenn, c'est juste le beau gosse. On va pas se raconter d'histoire. Mais voilà, on gagne. On gagne en plaisir des yeux. On perd en plaisir des oreilles. Voilà, globalement. Et quand vous êtes en podcast, c'est vrai que Glenn, finalement, vous n'avez pas grand-chose.
Ouais, ça sert à rien. En fait, je vais me barrer.
Ouais, on se pose la question, c'est vrai. On remercie Adrien, évidemment, derrière tout ça. Et on remercie notre graphiste du jour, qui est un nouveau graphiste qui s'appelle Vincent Jean-Baptiste. Voilà. Donc, on remercie tout le monde. On a fait les remerciements au début. Donc là, il est temps de démarrer l'émission. Et Glenn, sur donc, le Paris Saint-Germain, on va démarrer avec le PSG. On est parti d'un constat. PSG-Manchester City mercredi en demi-finale de la Ligue des Champions. Première mi-temps absolument exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Deuxième période, seconde période absolument cataclysmique. Paris a plongé. Alors oui, Manchester City a haussé les curseurs. En revanche, Paris a un petit peu pioché. Et on va se poser cette question. Est-ce que Paris n'est pas sur les rotules? Est-ce que Paris ne tire pas la langue? C'est dans ce sprint final que tout va se décider. Je rappelle simplement que Paris n'est pas encore champion de France et loin de là, puisque Lille le devance actuellement. Que Paris est en ballotage défavorable en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc il y a le spectre d'une saison blanche qui s'annonce. On sait déjà, et ça a été annoncé il y a quelques minutes, que Kylian Mbappé sera forfait pour le match face à Lens. Match capital hein, pour l'obtention du titre de champion de France. Glenn, est-ce qu'il n'y a pas à Paris un problème physique?
Moi, je le pense. Franchement, quand je vois le match du PSG, je vois juste pour rappel, la première mi-temps, la première période, notamment les 30 premières minutes du PSG face à Manchester City, c'est un bijou, ces 30 premières minutes. Franchement, c'était très, très bien. Et il y avait tout. Physiquement, les Parisiens ont mis ce qu'il fallait. Ils se battaient. Ils ont su défendre ensemble. Ils ont su se projeter pour faire mal à City. Manque de chance, ils n'ont pas réussi à vraiment conclure cette excellence, même s'ils ont mis un but. Ils n'ont pas réussi à enfoncer plus le clou. Et je trouve que la chute de la deuxième période, ce changement complètement de visage, pour moi, c'est évidemment une question physique. Alors, on va en parler. Il y a plusieurs raisons derrière tout ça. J'ai entendu qu'Arsène Wenger avait dit, pour lui, c'était plutôt un côté psychologique. Moi, vraiment, je pense que c'est physique et c'est ce que je dis. Il y a peut-être des raisons liées au Covid, liées aux blessures. Il y a eu énormément d'absents ces derniers mois au PSG. Et je pense que malheureusement, dans une période aussi clé que les demi-finales de Ligue des Champions, le sprint final en Ligue 1, ça se paye.
Il faut rappeler simplement que le Paris Saint-Germain est allé en finale de la Ligue des Champions, ouais. C'était en août dernier, qu'il n'y a pas vraiment eu de préparation, ça a très vite enchaîné, que tous les joueurs sont mis sous pression et sans vraie préparation physique. On dit souvent, parfois avec des préparateurs physiques, que cette période invisible pour nous, pour les observateurs du football, c'est-à-dire quand on prépare une équipe avant la saison, elle est capitale. Et cette période-là, à Paris, elle a été amputée, ou du moins en partie. Après, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des joueurs clés blessés, il y a eu 18 joueurs, imaginez 18 joueurs qui ont eu le Covid à Manchester City, ce n'est que 8. Donc ça donne quand même une valeur. On a interrogé juste avant cette émission, c'est Adrien Yo qui est derrière la caméra, qui a interrogé en conférence de presse Mauricio Pochettino sur justement l'impact du Covid. Parce qu'on sait que le Covid, c'est quand vous êtes guéri, que vous êtes un joueur de haut niveau, et ça reste. Hein, que notamment dans la répétition des efforts, les joueurs ont beaucoup plus de mal à répéter les efforts. Donc Adrien Yo a posé cette question à Mauricio Pochettino et on va entendre la traduction de la réponse de l'entraîneur parisien par son adjoint Miguel. On y va.
C'est vrai que quand nous sommes arrivés il y a quelques mois, il n'y avait pas seulement que des blessés, il y a eu des cas de Covid. Et à ça, si on va ajouter un calendrier qui est très chargé avec des matchs tous les trois jours, on voit aussi dans la difficulté justement d'arriver à ces niveaux de volume de quoi on parle. Et le défi est là, justement le défi est de pouvoir arriver à jouer 90 minutes au niveau qu'on l'a fait pendant 45-60 minutes et que ça permettra d'augmenter ces volumes de jeu. On progresse énormément au niveau des volumes, au niveau de la possession, mais on sait qu'on a du travail et c'est justement les défis qu'on a.
Alors il le dit bien Mauricio Pochettino qu'en effet le Covid ça peut peser et c'est des choses dont on va s'apercevoir sur le long terme, parce que les données sont encore en train d'évoluer, les analyses, etc., les études là-dessus montrent qu'en effet, visiblement, il peut y avoir un impact pour les sportifs de haut niveau. Et franchement, c'est vrai, le PSG est l'un des clubs les plus touchés actuellement en Europe sur la saison par le Covid. Donc forcément, ça a dû peser, et ça peut peser sur l'état de forme de ces troupes. Et l'autre truc, t'en parlais, Martin, et je veux insister là-dessus, je pense que tu vas reparler du Covid derrière, mais je veux vraiment insister sur la préparation. Parce que la préparation physique, c'est ce que tu dis, moi, au début de... en septembre-octobre, j'avais appelé un préparateur physique, Nicolas Dion, pour parler de ça, pour parler du fait que le PSG n'avait pas pu se préparer physiquement. Et il l'avait dit, je vous rappelle juste, que le PSG, c'est quoi? C'est entre la finale de la Ligue des Champions et le début de la reprise de la Ligue 1, si vous voulez. C'est 2 semaines et demie, c'est 18 jours, c'est rien. Ouais, alors que dalle. Par exemple, City a eu 5 semaines entre le quart de finale perdu, on sait, contre Lyon, et la reprise de la Première Ligue. 5 semaines, c'est pas énorme. Mais au moins, ça permet de travailler un peu plus, même si Guardiola, lui, s'était plaint déjà, avait dit que c'était court. évidemment cette préparation, parce que tout le volume aérobie dont tu parlais tout à l'heure, Martin, bah, c'est ce qui permet de répéter les efforts après pendant un match, de mieux récupérer aussi pendant une période de 3 jours entre 2 matchs, et aussi de mieux se remettre des blessures. Donc en fait, c'est quelque chose dont on travaille au début de saison, avant la saison normalement. Le PSG n'a pas pu le faire là. Et évidemment, ça peut expliquer le nombre de blessures, ça peut expliquer aussi que certains joueurs en ce moment galèrent peut-être à répéter les efforts lors d'un même match, à répéter à enchaîner des grands matchs d'un haut niveau, ce qu'ils sont en ce moment en train de faire. Et ben forcément, pour moi, ça peut être l'une des explications de la baisse de régime qu'on a vue contre Manchester City mercredi dernier.
Exactement, cette préparation foncière tronquée, ça peut expliquer aussi la saison sinusoïdale du Paris Saint-Germain. Il y a 8 défaites en championnat. Même en Ligue des Champions, on les a vues passer à travers certaines périodes. Alors, il y a le match face à Barcelone, notamment au Parc des Princes, même si je pense que là aussi, il y a un côté psychologique. Mais bref, on voit que la saison du PSG est moins rectiligne que d'habitude en championnat. Ça s'explique sans doute par ça. On le disait tout à l'heure, 18 cas de Covid dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Mais parmi ces 18 cas, par exemple, il y en a 8 qui étaient titulaires face à Manchester City, quand les Citizens, eux, ne présentaient que 3 joueurs qui ont été touchés par le Covid. Verratti a été 2 fois, par exemple. Et on sait, il y a une étude qui a été publiée dans le British Medical Journal qui nous dit que les délais de récupération sont plus élevés pour des joueurs qui ont eu le Covid. Alors imaginez un Verratti qui l'a eu 2 fois. Et là, on parle à long terme, hein, pas forcément un joueur qui l'a eu il y a 3 semaines. Florenzi aussi a été touché par le Covid il n'y a pas longtemps. Donc tout ça, ça peut expliquer aussi cette seconde période du Paris Saint-Germain. Ce qui est embêtant, ce qui est très enquiquinant même pour le PSG, c'est que ça arrive à une période charnière, à une période clé. Face à Lens, samedi, il n'y aura pas de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est celui qui sauve les fesses du Paris Saint-Germain depuis maintenant quelques mois, qui a fait doubler face à Saint-Etienne, notamment qui a sauvé le PSG face au Vert. Ce fut encore le cas la semaine dernière face à Metz. Donc, sans Mbappé face à Lens, on peut se dire, on se dirait d'habitude, c'est Lens, c'est au Parc des Princes, le PSG va en faire qu'une bouchée. Le problème, c'est que le PSG au Parc des Princes, c'est compliqué, que Lens fait une super saison, que Mbappé n'est pas là. Donc, il y a un danger qui n'existait pas les saisons précédentes, qui n'existerait pas si Paris était en pleine possession de ses moyens depuis le début de saison, mais qui là existe vraiment. Et c'est pour ça qu'on parle du spectre de la saison blanche. Et c'est que ça arrive au pire moment et que pour l'instant, rien n'est fait pour le Paris Saint-Germain. Paradoxalement, c'est peut-être le plus beau parcours européen de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est peut-être la plus belle épopée du PSG, parce qu'ils ont sorti le Barça, le Bayern avec des matchs incroyables. Mais si derrière, on arrive à une saison blanche, et bien forcément, le bilan, ce ne sera pas le même.
Mais oui, totalement, tu as raison. Et alors, saison blanche, je rappelle qu'il y a la Coupe de France aussi, mais où le PSG est encore en lice, évidemment. Mais c'est ce que tu dis, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et le PSG, le problème, c'est que ça fait des années qu'ils n'ont pas eu un sprint final en Ligue 1 serré comme ça. D'habitude, ces dernières années, ils déroulaient. Ils avaient une fin de saison plutôt tranquille où ils pouvaient se concentrer sur la Ligue des Champions. Là, alors, ils n'ont pas toujours eu la possibilité de se concentrer sur la Ligue des Champions parce qu'ils étaient éliminés avant. Mais là, en gros, ils doivent jouer vraiment sur 2 tableaux. C'est-à-dire que ce week-end contre Lens, ils ne peuvent pas vraiment lever le pied.
Et avec un effectif, on l'a dit, qui... ça tire, quoi. Ça tire.
Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Et donc, du coup, oui, ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions sur la capacité, dans quelques jours, mardi, du PSG, de faire un match plein. Parce qu'il faudra faire un match plein contre Manchester City. C'est-à-dire que ce que Paris a réussi à faire sur les 30 premières minutes, la première mi-temps au Parc mercredi, il va falloir le faire sur la durée pour aller vraiment gêner Manchester City. Et là, c'est plus compliqué. Après, la chance du PSG, c'est d'avoir évidemment des talents, des joueurs d'exception comme Neymar et Mbappé qui font des différences individuelles nettes. Et évidemment, mais il faut que ces joueurs soient à 100% de leurs moyens.
C'est bien ça le problème. Et il y a un vrai doute. Et il y a un vrai doute au-dessus de la tête d'Mbappé. Alors évidemment, la communication du Paris Saint-Germain est très parcellaire. Même Mauricio Pochettino a été... relativement nébuleux dans ses propos en conférence de presse vendredi sur Kylian Mbappé. Globalement, on ne sait pas vraiment s'il est préservé par sécurité ou s'il y a vraiment une inquiétude. De toute façon, s'il y avait vraiment une inquiétude, il ne nous le dirait pas, Pochettino. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est absolument pas une bonne nouvelle dans l'optique de Manchester City d'avoir un forfait de Kylian Mbappé. Mbappé, c'est le dernier joueur que vous sortez de votre 11 pour le préserver, parce qu'on le sait très bien que lui, il veut enchaîner. Il n'a pas été préservé avant le Bayern, il n'a pas été préservé avant le Barça, ça ne l'a pas empêché d'être bon. Mbappé, il veut jouer, il veut marquer l'histoire, il veut marquer des stats, il veut faire gonfler tout ça. Donc s'il n'est pas là, c'est que déjà, il y a une inquiétude pour samedi, le match, il vient très très vite après Manchester City. Donc pour moi, ça reste quand même une incertitude, un doute et donc une inquiétude. Allez Glenn, on va continuer cette émission avec notre deuxième sujet, avec Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin. On va s'interroger sur l'avenir de Cristiano Ronaldo parce que du côté de l'Italie, on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, on va retrouver la vongole sur la pasta, le pesto sur le spaghetti, la carbonara sur la penne. Comment ça va, cher Guillaume Maier-Pacini, notre spécialiste du football italien?
Eh ben écoute, bonjour Martin, bonjour Glenn, magnifique intro. Écoute, je vais très bien et j'ai hâte de parler de ce sujet qui fait en Italie en tout cas beaucoup, beaucoup jaser depuis 3-4 semaines maintenant au moins.
Alors, petit rappel des faits, Ronaldo et la Juve, ça se passe pas comme prévu. La Juve avec Ronaldo n'a jamais dépassé les quarts de finale avec des champions. En plus, en championnat, le titre, on peut quasiment dire qu'il s'est envolé. Ça va être officiel dans quelques journées, quelques jours peut-être même. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ronaldo se pose beaucoup de questions sur son avenir. La presse italienne se pose beaucoup de questions sur l'avenir de Ronaldo. Et la Juve se demande aussi si elle doit continuer avec lui. On rappelle qu'il lui reste un an de contrat. Guillaume, moi ce que je veux savoir d'abord, c'est ce qui se dit du côté de l'Italie. Je vais être très clair, est-ce que Ronaldo va rester cet été?
Écoute, la réponse encore, honnêtement, je pense que même la Juve et Ronaldo ne le savent pas. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas aujourd'hui, il y a une question, une réflexion qui est entamée à la Juve, parce que globalement, la Juve va probablement entamer une révolution globale qui englobe aussi Andrea Agnelli. Alors, il y a eu l'épisode de la Super League que vous avez tous suivi ces dernières semaines avec Agnelli. Et c'est vrai que ça concerne Agnelli, ça concerne Pirlo et Allegri qui pourraient venir. Évidemment, ça concerne le terrain aussi, parce qu'un joueur comme Ronaldo, Martin, qui touche 31 millions d'euros nets par an dans un contexte économique comme on le connaît aujourd'hui, forcément, tu te poses des questions. Il a 36 ans. La Juve a perdu peut-être en qualité aussi autour de lui. Peut-être qu'elle a fait trop vite, il y a 3 ans, l'équation un peu entre Ronaldo égale victoire et des champions. Il n'y avait pas que ça. Donc, il y a peut-être un désert technique qui s'est installé autour de lui. Mais en tout cas, aujourd'hui, aucune décision n'a été prise sur l'avenir de Ronaldo. Mais il y a une réflexion du joueur qui regarde quand même autour de lui voir ce qui se passe, et la Juve qui serait pas contre son départ parce qu'elle économiserait beaucoup d'argent. Mais aussi, on est conscient que Ronaldo, même s'il traverse une période difficile, reste quand même important pour la Juve parce que justement, et c'est Cristiano Ronaldo.
C'est la question que je veux te poser, Guillaume, c'est qu'est-ce que ça donne la saison de Ronaldo d'un point de vue, j'allais dire, italien, au-delà de ce qui s'est passé en Ligue des Champions. On rappelle que la Juve s'est fait sortir par Porto en 8e de finale, donc c'est pas très glorieux. Mais d'un point de vue, on va dire, italien, la saison de Ronaldo à la Juve, ces derniers temps, c'est moyen-moyen et on sent qu'il y a de la tension.
Écoute, les statistiques, si les gens qui ne suivent pas la Serie A vont voir les stats de Ronaldo, c'est 32 buts en 39 matchs. Dit comme ça, tu pourrais me dire, c'est du Ronaldo tout craché, il fait une super saison. Il faisait une très bonne saison, j'ai envie de te dire, avant l'élimination contre Porto. Il y a eu un après.
Alors, c'est
il y a
le coup d'arrêt.
C'est le coup d'arrêt. Alors, le coup d'arrêt, 3 jours après, il m'a triplé contre Cagliari. Donc, c'est un peu le réveil, le sursaut du champion. Et c'est vrai que depuis 3 matchs, 4 matchs. C'est un Ronaldo triste, c'est un Ronaldo malheureux. En tout cas, il est décrit comme ça sur les journaux italiens. Et contrairement à il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, ça explose au regard de tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas sur le terrain. On sent qu'il y a une espèce de mal-être chez Ronaldo. Et aujourd'hui, la Gazzetta, par exemple, disait qu'il était totalement isolé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mal-être. Et on se pose clairement la question, est-ce qu'il est malheureux à la Juve? C'est peut-être un élément de réponse. Est-ce qu'il est triste parce que la saison de la Juve, forcément, est très décevante? Elle n'est pas certaine encore de se qualifier en Ligue des Champions. Donc, ça aussi, c'est un facteur. Si demain, Martin, la Juve se qualifie pas en C1, tu te doutes bien que Ronaldo va forcément dire, si vous ne vous qualifiez pas, moi, je m'en vais.
Mais tu me disais même quasiment que sur les derniers matchs, tu avais l'impression que la Juve joue à 10.
Oui, parce que Ronaldo, en fait, est transparent tant dans les phases de jeu et même devant le but face à la Fiorentina. Les tifosi l'ont bien vu. Il y a une occasion sur le 1 en fin de match, une tête toute simple à mettre, il ne la met pas. Contre part, il prend un carton jaune tout bête en fin de match parce qu'il envoie le ballon dans les tribunes, parce qu'il est frustré. Il y a un sentiment de frustration, d'isolement, de mal-être. On sait que Ronaldo est très focalisé sur ses stats personnels. C'est pas une surprise, tout le monde le sait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que depuis 4-5 matchs, il y a vraiment une espèce de mal-être. Et c'est aujourd'hui cette attitude qui choque plus en Italie que ses performances. Ça fait 3 matchs qui ne marquent pas, ce n'est pas énorme. Ça peut arriver à tous les joueurs du monde. Mais c'est vrai que son attitude aujourd'hui pose réflexion en Italie. Même les tifosi aujourd'hui disent, si tu vas voir les réseaux sociaux, ce qui un peu résume le sentiment global des tifosi, c'est que Ronaldo, ok, mais s'il joue comme ça, honnêtement, autant le mettre sur le banc, même si on sait qu'avec un joueur comme lui, le sursaut peut arriver à tout moment.
Glenn, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la Juventus de se séparer de Ronaldo. On sait que là, la Juve est dans un instant charnière. Elle va sans doute changer d'entraîneur. Elle va sans doute changer de projet. Et Glenn, si la Juve veut changer de projet, il va falloir se séparer de Ronaldo.
Ben exactement, je suis d'accord, tu as totalement raison Martin pour moi là-dessus, et c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, il faut voir ce que pèse Ronaldo dans les finances de la Juve, c'est juste colossal. Guillaume l'a déjà dit, mais on va juste répéter parce qu'il faut avoir ça en tête, c'est 31 millions d'euros nets par saison Ronaldo, si vous rajoutez les charges, ça fait à peu près 86 millions d'euros pour la Juve, c'est énorme, c'est 22% de la masse salariale de la Juve, rien que Ronaldo. Alors évidemment, la Juve le savait quand ils ont recruté, Ronaldo en 2018. Le truc, c'est que je pense qu'ils ne pensaient pas que leur revenu allait augmenter peut-être si peu, si je peux être un peu négatif, parce que évidemment les revenus ont augmenté. On sait que le chiffre d'affaires de la Juve a été record il y a deux saisons avant le Covid, en fait. Mais depuis, en fait, ça n'a pas augmenté tant que ça. Et surtout, il y a eu le Covid qui est passé derrière. La Juve a annoncé il y a peu de temps un déficit de plus de 110 millions d'euros au premier semestre cette année. C'est énorme. Et pour moi, évidemment, c'est ce que tu dis. S'il faut avoir une révolution, si la Juve veut vraiment mettre en place une révolution, changer de projet, pour moi, c'est obligé de le faire sans Ronaldo parce que Ronaldo pèse trop dans les finances du club pour réussir vraiment à changer vraiment de modèle. Si Ronaldo est là, en fait, ce sera la même chose l'année prochaine parce que la Juve n'a pas de marge, en gros, pour s'activer et vraiment… essayer de trouver des nouveaux profils, essayer de miser sur d'autres joueurs. Ce n'est pas possible pour moi si Ronaldo est encore là.
Et alors, Guillaume, tu me contrediras si tu n'es pas d'accord avec moi, mais quand on regarde ces dernières années, avant que Ronaldo arrive, la Juve restait en 4 ans sur 2 finales de Ligue des Champions. Depuis qu'il est arrivé, on rappelle que c'était à l'été 2018. Depuis ce temps-là, c'est 2 éliminations en 8e, 1 élimination en quart. Mais pire que ça, c'est des éliminations contre l'Ajax, Lyon, et Porto. Et pour la première fois depuis des années, la Juve ne va pas gagner le Scudetto cette année. Elle gagnait sans lui. Donc au final, moi je dirais que Ronaldo n'est responsable de rien. Il n'est coupable de rien parce qu'il a fait le taf à la Juve. Il a marqué, il a terminé meilleur buteur, etc. Donc c'est la Juve qui est coupable d'avoir tout misé sur lui, d'avoir appauvri le reste de l'équipe, d'avoir fait un all-in sur Ronaldo. Et c'est ça le problème finalement, Guillaume.
Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Martin. On peut pas reposer tous les problèmes. on peut pas reposer tous les problèmes de la Juve sur Ronaldo. Et surtout, Martin, avant de venir, j'ai quand même bossé, tu vois. Et j'ai regardé un peu les stats qu'il a eu en comprenant. À partir des 8e de finale, il est champion depuis ses 3 ans. Il a quand même marqué 7 buts en 9 matchs. Oui. Bon, tu te rappelles, il y a 3 ans, il élimine l'Atlético Madrid à lui tout seul. Après la défaite de 0, il en met 3 au retour. Donc, sur le papier, quand même, Ronaldo, évidemment, a fait le boulot. Mais il était arrivé, comme je te l'ai dit, j'ai l'impression peut-être que la Juve a fait l'équation. En fait, il y a cette malédiction de la Juve en Ligue des Champions et ça la hante depuis quasiment plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'en recrutant Ronaldo, on s'est dit, on recrute Ronaldo, ça veut dire qu'on va gagner des champions. Eh ben non. Autour, il y a vraiment peut-être un milieu de terrain. Moi, je repense au milieu de terrain, Pogba, Vidal, Marquisio. Je regarde aujourd'hui et clairement, il y a un désert technique qui s'est installé. Et c'est vrai qu'il y a eu un all-in, comme tu l'as dit, qui a été fait sur Ronaldo. Donc voilà, on peut discuter du moment actuel qui est compliqué pour lui, mais il n'est pas coupable de tous les maux, mais c'est évident, et je reviens à ce que disait Glenn, il y a un nouveau projet quand même qui s'est installé l'année dernière, avec un projet de rajeunissement, les Chiesa, les McKennie, Matuidi qui est parti par exemple. Donc Ronaldo, si une solution convenable est trouvée pour le joueur,
et c'est le gros
pour
problème.
La Juve…
Et c'est le gros problème. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, qui peut se payer Ronaldo ? Alors, ce qui est assez dingue, c'est que Messi, tout le monde se presse. Paris est prêt à lui offrir un pont d'or. Manchester City lui fait les yeux doux et le Barça veut le prolonger. Il n'y a que 2 ans d'écart entre les deux. Il n'y a que 2 ans d'écart. Et on ne peut pas dire que Ronaldo soit largué au niveau des statistiques. Ça aussi, connaissant Ronaldo, ça doit lui faire mal à l'amour propre, ça doit lui faire mal tout court. Parce qu'aujourd'hui, Ronaldo, il se retrouve à un moment charnière. Parce que, alors, Guillaume l'a dit, peut-être que la Juve ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Si c'est le cas, on ne voit pas comment l'histoire peut continuer. Mais même dans une Juve qui ne passe plus les quarts, plus les huitièmes même maintenant, on voit mal comment Ronaldo peut rester là. Et d'autant que Messi garde un pouvoir d'attractivité parce que c'est le Barça, parce que c'est la Liga. Quand la Juve ne gagne plus de titres, on a tendance un peu plus à oublier Ronaldo. Et ça doit compter aussi pour lui. Donc aujourd'hui, il est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'il doit faire, Ronaldo ?
Après,
on parle de Manchester United, mais c'est compliqué.
Si je peux juste me permettre, Martin. Oui,
permets-toi.
Oui, il y a Messi, il y a plus d'attractivité côté Messi, mais Messi, il est libre. C'est ce qui fait la grosse différence.
Bien sûr.
Parce que là, ce qui change un peu la donne pour Ronaldo, c'est qu'évidemment, il lui reste un an de contrat avec un salaire monstrueux, on l'a dit tout à l'heure.
Ouais, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'indemnité de transfert qui pose problème pour Ronaldo.
Non, parce que je ne sais pas d'ailleurs si ça filtre un peu dans la presse, Guillaume, tu vas pouvoir nous dire, mais justement, est-ce que la Juve est capable de. Veut faire peut-être des petits efforts, c'est-à-dire de le lâcher en donnant en gros une indemnité de transfert un peu ridicule, histoire de. Parce que pour moi, pour la Juve, la vraie question, c'est bah, autant le lâcher, quitte à aller pour 5 millions d'euros, mais parce que en gros, ce qui va soulager vraiment les finances de la Juve l'année prochaine, c'est de perdre son salaire, d'enlever son salaire à leur compte.
Il partirait pour combien là,
eh ben, écoute, c'est alors Glenn, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a rien qui a filtré sur la limite de transfert que réclamerait la Juve. Par contre, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a filtré, c'est le fait que Ronaldo pourrait faire un effort sur son salaire si Manchester venait à le recruter. On sait que la porte du Real s'est refermée. C'est ce que disait la presse aujourd'hui. La porte du Real, voilà, Pérez l'a dit lui-même la semaine dernière. C'est mort pour Ronaldo au Real. Par contre, à Manchester, on sent qu'il y a une petite opportunité et il pourrait faire quand même un effort sur le salaire. Il est décrit un peu comme, il sera un peu, on va dire, le guide de Rashford, par exemple, pour jouer de ses côtés. On sait que Cavani aussi à Manchester va probablement partir. Donc voilà, on sait qu'à Manchester, il y a une porte ouverte. Après, on est en temps de Covid. 31 millions d'euros de salaire net, c'est énorme. Alors, faudrait voir combien Ronaldo est prêt à sacrifier. Il faut voir aussi comment Manchester est prêt à lui offrir. Donc, il y a beaucoup quand même de facteurs qui font penser que la solution la plus simple, peut-être, Martin, tu me diras ce que tu en penses, c'est attendre un an, faire encore un an comme ça.
Ouais, mais attendre un an quand on a 36, Guillaume. C'est ça le problème.
C'est
attendre
c'est
un
possible.
An quand on a 27, 28. Mais là, lui reste. Là, c'est la fin de carrière qu'il faut qu'il écrive, Ronaldo. Là, c'est l'image qu'il va laisser. Alors, il y a plein de choses qui ont été… Mais comment il va sortir? Comment il va sortir, Ronaldo? Avant peut-être de partir pour des championnats plus exotiques. Quoique, je ne suis pas sûr que ce soit dans
ce dessin. Le vrai problème que disait Glenn, c'est l'année de contrat qui lui reste. S'il était en fin de contrat, honnêtement, je pense que beaucoup de clubs se seraient activés dans le sens où tu peux toujours négocier directement avec le joueur. Aujourd'hui, il faut passer par la Juve, il faut passer par le joueur. Voilà, on sait que Jorge Mendes, son agent, a été missionné, en tout cas, pour trouver une porte de sortie. Aujourd'hui, Manchester, c'est la plus probable, mais si un accord n'est pas trouvé avec Manchester, est-ce que Ronaldo est prêt, par exemple, à une mission plus exotique? Alors, j'ai envie de te dire la MLS, par exemple,
pour moi. Pour moi, c'est trop tôt pour lui. Après, l'histoire avec Manchester, ce serait beau d'un côté, parce que on le sait, évidemment, il a vraiment lancé sa carrière à Manchester. Ce serait un joli pied de nez, je trouve, pour finir. Alors, il lui reste encore quelques années, mais pour finir, ce serait quand même sympa de le voir à Manchester. Mais le vrai souci, c'est est-ce que la Juve va faire des efforts pour le lâcher, quoi.
Exactement, c'est la question. On en reparlera dans le FC Stream Team, dans Mercredi Mercato tout l'été, vous inquiétez pas. C'est un sujet vaste. On te remercie, Guillaume, de nous avoir accordé un peu de ton temps parce qu'on sait qu'il est précieux, parce qu'on sait que tu es un travailleur acharné. Et allez évidemment sur Eurosport.fr, vous délecter de Pacini, de Guillaume Maillard Pacini, la plus belle plume du journalisme contemporain. Merci, Guillaume.
Merci, Martin. Merci, Glenn.
Allez, pour la dernière partie de cette émission, on reçoit Vincent Chaudel, économiste et cofondateur de l'Observatoire du Sport Business. Déjà, merci de nous accorder un peu de votre temps. On vous reçoit.
Bonjour.
On vous reçoit parce que BT Sport veut céder son cadre. Enfin, BT veut céder son catalogue sport en Angleterre. Et ça redistribue les cartes. Hein. C'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. Ça redistribue complètement les cartes du côté du marché du droit TV en Angleterre.
Alors, ça redistribue les cartes. Ça ne change pas les montants, puisque l'acteur qui pourrait racheter le catalogue BT Sport est engagé pour les trois prochaines années, comme les Amazon, qui est d'ailleurs un des candidats, et comme les Sky. Donc, ça ne change pas en profondeur, ou du moins à court terme, l'économie de la Première Ligue. En revanche, ça peut changer la structure même des acteurs. C'est-à-dire que on passe avec des acteurs, imaginons 30 secondes, que Amazon, mais ce n'est pas le seul d'ailleurs, il y a également DAZN et Discovery, une maison que vous connaissez par ailleurs, qui s'y intéressent. Bref, ce sont des acteurs qui ne sont plus des acteurs nationaux, ce sont des acteurs qui sont globaux. Si on parle d'Eurosport, à un moment donné, Eurosport ne couvre pas que la France, bien évidemment, comme son nom l'indique d'ailleurs. Mais DAZN n'a pas une réflexion uniquement nationale, pas plus qu'Amazon. Donc si ces acteurs-là, à un moment donné, ont un portefeuille de droits, ils vont essayer aussi de discuter avec les organisateurs des compétitions pour pouvoir les exploiter sur leur potentiel, c'est-à-dire le monde entier. Et ça, c'est vraiment intéressant.
L'une des questions aussi, c'est parce qu'on le voit, qu'est-ce que ça révèle en fait qu'un groupe aussi puissant que BT cherche à vendre son portefeuille sport? C'est parce que est-ce que ça veut dire que la bulle est arrivée à une limite et qu'elle est en train d'éclater, peut-être la bulle des droits TV?
Alors, je suis pas sûr qu'elle soit arrivée à une limite. Je pense qu'elle arrive peut-être à une limite domestique. Et c'est ça le sujet. Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas nécessairement droit télé tout de suite, mais qui est lié en fait. Quand vous achetez un joueur comme Neymar à 220 millions d'euros, même si ce n'est pas un transfert et que c'est un rachat de clause, vous n'imaginez absolument pas les amortir sur la France, pas plus sur l'Europe. En revanche, 220 millions d'euros, quand vous essayez de l'amortir ou de le valoriser sur le monde entier, ça change l'économie. Quand on parle du football anglais, qu'on est à 4-5 milliards d'euros de droits, ça devient compliqué d'amortir sur le seul territoire britannique, alors qu'à un moment donné, ces sommes-là peuvent s'imaginer sur des territoires bien plus vastes. C'est pour ça, et je fais une parenthèse, c'est que le projet de Super League dont, avorté ou reporté selon la vision des uns ou des autres, avec 6 milliards, oui, ça se tient parce que cette Super League, elle aurait ou elle aura une audience mondiale.
Donc on
Bien
est sur une
sûr.
globalisation des droits télé
Définitivement.
qui est en
Définitivement.
train de se passer sous nos yeux, quoi.
Exactement, c'est
Alors.
ça qui est en train de s'opérer. Et alors, moi, on n'est pas nécessairement sur l'effondrement d'un pilier, mais sur la transformation.
Alors c'est intéressant parce qu'on sait que la Première Ligue était en train
Merci.
aussi de regarder pour prolonger ses droits TV, essayer jusqu'en 2025. Et justement, est-ce que la somme qui était colossale lors des dernières négociations va être à la même hauteur, ce qui peut engendrer beaucoup de conséquences derrière, notamment pour les clubs?
En fait, je pense que le sujet au niveau de la Première Ligue, qui est un peu délicat dans cette notion de prolongation, c'est pas l'effondrement de son marché, c'est l'incertitude du marché. On l'a vu sur les semaines passées, le sujet de Super League avec potentiellement 6 clubs anglais qui pourraient partir, aurait un impact structurel sur la valeur même de la Première Ligue. Donc c'est ça qui, à mon avis, est un handicap actuellement dans la renégociation des droits anglais. C'est que si j'étais diffuseur, évidemment que la Première Ligue est intéressante. Mais quelle première ligue? Parce qu'une première ligue sans Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Liverpool, ça reste une première ligue. Mais ça n'a peut-être pas la même valeur.
Oui, mais normalement, la première ligue est avortée et du coup, on aura quand même une
La Super Ligue est avortée.
Super Ligue, excusez-moi.
La première ligue n'est pas avortée encore. Non, non, oui, mais on sent bien quand même que les acteurs, parce qu'on parle quand même pas de sommes anodines, c'est quand même des gros montants dont il est question, que chacun essaye de se préserver et de sécuriser ses investissements, et c'est logique. Donc je pense que là, on est quand même dans une période d'incertitude et que cette période d'incertitude, elle, n'est pas favorable à ceux qui vendent. Elle peut être favorable à ceux qui achètent, mais qui achètent très bas. Et donc, la meilleure protection aujourd'hui de la Première Ligue, c'est d'avoir 3 ans de contrat devant elle, ce qui n'est peut-être pas le cas au niveau de la France.
Voilà,
Alors
exactement.
justement, c'est très intéressant parce que justement, c'est ce qui évidemment nous passionne. Et quand on pense au marché français, on pense au marché anglais, on pense aussi au marché français. Et est-ce que ça peut avoir des conséquences, notamment aussi sur la négociation des droits TV? On sait que la Ligue française, la LFP, doit trouver un nouveau diffuseur pour la période 2021-2024. Est-ce que ce retrait de BT peut influencer justement cette négociation?
Alors, BT n'avait pas d'intérêt par rapport à la.
Non, mais je veux dire,
Non, mais
d'autres
je comprends
acteurs
bien.
vont, voilà,
Oui, je comprends
notamment,
bien.
je
Je
pense à
comprends bien.
DAZN quand je dis ça.
La question, c'est qu'on pouvait se poser la question ou espérer l'intervention ou l'implication d'Orange, par exemple, dans le prochain appel d'offres, qui est un acteur puissant, qui a déjà beaucoup d'abonnés, qui a connu le foot, pas nécessairement une expérience heureuse, mais je pense qu'elle était peut-être prématurée. Je pense qu'Orange avait raison, mais Orange a eu raison peut-être trop tôt par rapport à la maturité du marché français, et que ça pouvait ou ça peut être un acteur important dans le nouvel appel d'offres. Maintenant, son cousin ou son concurrent britannique se retirant, c'est pas nécessairement un signe positif à ce niveau-là. Mais on peut se poser aussi, voir les choses d'une autre façon. Comme j'évoquais l'arrivée d'acteurs Amazon, DAZN, par exemple, des acteurs globaux, internationaux. Est-ce que pour les droits à venir, la France n'aurait pas intérêt à se poser la question d'embarquer ou de laisser tomber cette notion de territorialité dans ses droits ? C'est-à-dire que les droits dont on parle en France actuellement, c'est les droits nationaux, c'est-à-dire d'exploitation de la Ligue 1 en France. Rappelons juste que les droits internationaux de la Ligue 1, c'est 85 millions d'euros, là où en Espagne, c'est 895 millions d'euros. Je ne suis pas sûr que de se passer de 85 millions d'euros pour attirer un acteur global comme Amazon ou DAZN soit une mauvaise option, par exemple. Alors, ce n'est pas une option facile à mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, il y a un détenteur de droits, il faudra le dédommager si besoin, mais ça peut être une piste à creuser.
Mais en gros, ça voudrait dire repenser complètement, ce qui paraît compliqué en si peu de temps, j'allais dire, repenser complètement le schéma des droits TV et la manière de les vendre.
Ah, c'est pas neutre, effectivement. Alors, il y avait aussi la possibilité de ne pas revendre pour 3 ans, mais de revendre chaque année. Peut-être qu'on peut être sur une discussion de prolongation des droits ou de vente des droits pour la saison 2021-2022. Pour se laisser le temps d'ajuster ce sujet-là, le négocier avec les détenteurs actuels et construire un appel d'offres pour les 2 ou 3 saisons à venir.
Merci beaucoup, monsieur Vincent Chaudel, pour votre analyse, pour votre expertise. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, c'est un feuilleton qu'on va suivre, hein, notamment en France.
Oui, je crois qu'on peut se dire à bientôt.
Ouais, je crois qu'on peut se dire à la semaine prochaine et à celle d'après. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir. Glenn, merci d'avoir passé ce FC Stream Team en notre compagnie.
Tous c'est les Romain Danzé et Johan Gourcuff, là.
Ouais, c'est vrai, exactement. Tous les Bretons seront très heureux de terminer en musique. On vous rappelle que vous pouvez retrouver ce FC Stream Team sur Brest TV, sur toutes les plateformes de podcast, sur Facebook et les meilleurs extraits tout le week-end à partir de là, dans quelques minutes, sur Eurosport.fr. Restez évidemment avec nous parce que c'est un gros week-end. Hein. C'est un gros week-end de sport ce week-end. Merci Glenn.
Merci Martin. Je t'invite à aller manger une petite galette saucisse maintenant.
Ah bah, avec beaucoup de joie. Hein. Est-ce que je le fais bien? Comment ça s'appelle cette petite danse déjà?
J'ai un trou de mémoire, malheureusement.
Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Non, mais t'es pas. Ouais, c'est un faux breton. C'est un...
Ouais, là, je suis navré, malheureusement.
J'ai l'impression que t'es un breton de Paris, toi. Enfin, bref. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le retour de Maxime Dupuis, sans doute. Merci Adrien, merci tout le monde. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao.
Salut à tous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.